Bien, maintenant que je vais parler du rêve et de leur portée religieuse en islam et en particulier dans le soufisme, l'islam a, comment dire, comme titre, comme caractéristique des religions du livre, mais ce rapport au livre n'exclut pas du tout l'image, ou en tout cas, pas du tout l'image visionnaire. Ce sera le thème de mon exposé, à savoir que le message visionnaire viendra compléter le message récité ou écrit. La culture islamique, vous le savez, est une culture qui est largement aniconique. Les représentations y sont très rares. On connaît bien sûr la miniature persane, mais déjà, donc ce matin, on en a parlé avec l'exposé de Christian Jambé. Ce que représente une miniature persane, c'est justement une autre dimension, ce qui d'ailleurs rejoint ce que je vais dire maintenant. Mais depuis ses origines, l'art musulman en général est un art qui se passe d'images. Il y a eu des images. On sait bien qu'à l'époque omeyyade, il y avait des peintures murales, mais en tout cas, elles n'ont jamais occupé une place importante. Et surtout, il n'y a jamais eu de débat théologique ou philosophique au sujet de l'iconoclasme ou de la valorisation de l'art. Le Coran ne fait aucune allusion à la question. Ce qui montre que lorsqu'il s'adressait aux polythéistes, ou aux juifs, ou aux chrétiens, ou aux judéo-chrétiens, ce n'était pas un enjeu profond pour lui. Pour autant qu'on peut savoir. Le hadith, donc les paroles attribuées au prophète Mohammed, donne quelques éléments un peu plus détaillés sur la question. Il semble suggérer que l'image matérielle serait incompatible avec le message coranique lui-même. Le hadith le plus connu, c'est le récit fondateur en quelque sorte, c'est les anges n'entrent pas là où se trouve un chien ou une image. Le dernier récit est encadré par ce dernier hadith est encadré par un récit dans lequel Mohammed aurait attendu l'ange Gabriel qui apparemment donc venait à un espace très régulier et l'ange Gabriel se fait attendre tellement que le prophète finit par s'inquiéter, s'impatienter et va à sa porte et à sa porte il trouve l'ange Gabriel qui attendait et qui s'explique en disant nous n'entrons pas dans une maison là où se trouve une image ou un chien. Donc il y a des variantes de ce hadith et à ce moment-là Mohammed s'aperçoit qu'effectivement il y avait un petit chien qui s'était introduit dans la maison et qu'il y avait des motifs qui avaient été peints sur des textiles. Alors vous notez que dans ce hadith, aucune explication n'est fournie. C'est comme ça, les anges n'entrent pas bon, là où il y a un chien et des peintures. Pourquoi? Quel est le rapport entre les deux? Est-ce une question d'impureté? Est-ce que la présence du chien explique un peu l'interdiction de la représentation figurée? La principale conclusion qu'on peut en tirer, finalement, c'est ce silence. C'est-à-dire que à l'époque où le hadith a été écrit, 2, 3 siècles après les événements possibles, on n'avait pas gardé une mémoire de cette incompatibilité ou du statut qu'aurait eu la représentation figurée. D'autres hadiths recommandent à des peintres de l'époque de ne pas représenter des êtres humains, mais de les décapiter, de rendre plutôt semblables à des végétaux. Mais quoi qu'il en soit, la littérature juridique ne contient pas de chapitre important consacré à l'interdiction des images. Nous avons des juristes qui sont prononcés sur la musique, sur la danse. Il y a tout le chapitre sur l'interdiction du samar, de la danse et de la musique des soufis, sur lequel nous avons pas mal de textes, mais pas tellement sur la peinture. Il y a des passages chez Razali, chez Nawawi au XIIIe siècle, mais globalement, donc, en un mot commençant, il n'y a pas eu vraiment de débat. Il y a eu, peut-on dire, un consensus général depuis les origines de la culture musulmane sur le fait que l'art était non figuratif. On voit sur les plus anciennes bâtiments, les maisons, la décoration est d'ordre géométrique ou alors ornée par la graphie, par la calligraphie qui a pris un degré de raffinement, comme vous le savez, tout à fait étonnant. Il y a un certain paradoxe à voir que dans beaucoup de maisons de musulmans pieux, on voit afficher la hélia. La hélia, c'est une description description physique du prophète. En effet, contrairement à ce qui se passe dans le christianisme où on n'a aucun souvenir visuel du Christ mais où les icônes abondent, dans l'islam c'est l'inverse. On a une description très précise du prophète Mohammed, de sa taille, sa complexion, ses cheveux, etc. au point qu'on pourrait en faire un portrait robot, mais il n'est jamais, enfin, il est très rarement représenté. Il est, on trouve, mais et en tout cas, ce qui est représenté, c'est sa description verbale en quelque sorte et calligraphiée. Alors, est-ce que c'est à dire qu'au fond l'image ne joue aucun rôle dans l'économie du salut de l'islam? Là, je crois qu'il faut nuancer l'affirmation. En effet, le Coran lui-même insiste sur l'aspect visuel de la création. Il décrit tout l'aspect coloré du paradis. Il dit, regardez les signes qu'il y a dans la nature, dans les plantes, dans les montagnes. Donc, ces signes de Dieu se lisent sur deux registres, comme le dit un célèbre verset, le verset 53 de la 41e sourate. Nous leur ferons voir nos signes dans les horizons, c'est-à-dire dans la création, et dans les âmes. Donc, on peut voir les signes de Dieu soit devant soi, soit à l'intérieur de soi. Mais l'art figuratif lui-même ne fournit ni l'un ni l'autre. La forme naturelle, donc fabriquée, disons, par un artiste, ne correspond qu'à une dimension humaine, et que donc l'homme ne peut représenter que de l'humain. En tout cas, suivant la version visuelle, bon, on a entendu avec Mollah Sadra, on a vu une élaboration plus complexe. Mais le plus grand artiste ne pourra que restituer sa propre vision du monde, laquelle est forcément illusoire. Bref, l'art humain ne décrit que lui-même. Toutefois, il y a un type d'image qui est porteur d'un authentique message religieux et d'un authentique message surnaturel, et ce sont les représentations oniriques et visionnaires dont je voudrais parler à présent. Il faut d'abord souligner le rôle absolument, pas essentiel, mais très important accordé dans la littérature musulmane commune aux rêves vrais, ru'ya saliha. Tous les rêves ne sont pas vrais. Il y a bien sûr, explique le hadith, des rêves qui sont simplement des sortes de retour de la mémoire de la veille. C'est l'âme qui se parle à elle-même en quelque sorte. Ces rêves n'ont absolument aucune valeur religieuse. Ils ne sont pas maléfiques non plus. Mais il y a aussi des suggestions de Satan. Alors ce sont des rêves dans lesquels Satan instille la peur et le doute. Ce sont des rêves un peu absurdes, illogiques, loufoques. Ce qui d'ailleurs fait que la littérature onirique musulmane ne comporte pas de tous ces rêves paradoxaux sur lesquels la psychanalyse s'appuie. La Ru'ya Saliha, par contre, est un rêve qui est sain, qui est vrai, qu'on ressent comme vrai, que le rêveur, en se réveillant, voit bien, enfin, sent bien que c'est un message vrai, et lui, il a un statut tout à fait reconnu. Dans le Coran, il est dit que Dieu communiquait à ses prophètes, avec ses prophètes, par l'intermédiaire de rêves. C'est ainsi qu'Abraham reçoit dans un rêve le message lui disant de sacrifier son fils. Joseph, donc, comme dans la Bible, se voit en rêve avec ses frères qui se prosternent autour de lui. Enfin, ce sera l'interprétation, disons. Et enfin, Mohammed lui-même reçoit des rêves très importants de la part de Dieu, ce dont le Coran lui-même fait état. Le hadith, la vie du prophète, développe ce rôle insigne du message onirique. Le prophète aurait annoncé, c'est un hadith canonique, qu'après sa mort, lorsque lui ne serait plus là, il resterait quand même les bonnes nouvelles, à savoir les messages donnés dans les rêves, et donc laissant entendre que le rêve serait comme une continuation de la prophétie. Cette idée-là est annoncée avec plus de force encore par un hadith, donc lui également canonique et qui existe sous pas mal de versions. Il aurait dit, il ne restera de la prophétie que les bonnes nouvelles, donc, les rêves, ces bonnes nouvelles seront les rêves vus par le croyant ou vus pour lui par une autre personne, ce que je viens de dire, et l'autre hadith, le rêve est la 46e partie de la prophétie. Donc la prophétie Nubuwa, c'est-à-dire que vraiment le rêve saint, bien sûr, fait partie de ce message prophétique, c'est une continuation, une actualisation en quelque sorte des messages que Dieu envoie aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. Donc c'est une affirmation extrêmement forte pour ce qui est de notre sujet. Et puis, Il y a aussi un autre hadith auquel Christian Jamais vient de faire allusion, à savoir que quand on voit le prophète en rêve, on est sûr que c'est lui. Parce que Satan ne peut pas prendre l'aspect du prophète. Et après, ça s'est étendu aux autres prophètes ou aux anges. Mais enfin, donc c'est quelque chose une affirmation qui indique que lorsqu'on voit le prophète en rêve, qui vous donne un message, ça a une valeur énorme, puisqu'on devient, pour ainsi dire, le contemporain du prophète. La parole que vous dit le prophète n'est pas un hadith, bien sûr, mais enfin, ça a quand même un poids tout à fait considérable, et ce jusqu'à nos jours. Je lisais il n'y a pas longtemps le rapport d'un boulanger au Caire qui avait vu le prophète en rêve, et du coup, il était devenu lui-même une notabilité dans son quartier, comme quelqu'un qui avait été gratifié d'une présence prophétique. Et ce qui veut dire, d'ailleurs, c'est confirme l'idée que le prophète Mohammed, pour les musulmans, est toujours vivant, il est toujours actif, et il transmet toujours ses messages. Ce qui n'est pas sans conséquences politiques, mais ce n'est pas du tout le lieu d'en parler. Ce principe de la visualité des êtres surnaturels stipule même que Dieu lui-même, peut être vu. Et c'est ainsi qu'un hadith, lui aussi, donc qui figure dans les recueils canoniques, affirme que Dieu a vu son Seigneur sous la plus belle des formes, fi ahsani suratin. Il y a un dialogue s'est instauré entre Dieu, la théophanie, et le prophète, et Dieu a mis sa main sur le dos, sur les omoplates du prophète, au point, dit-il, que je sentis la fraîcheur de la pointe de ses doigts sur mes mamelons. Donc c'est un rêve tout à fait concret, peut-on dire. De même, l'idée que Dieu est en quelque sorte rendu visible, existe pratiquement déjà dans le Coran. Dans la sourate 53, versets 1 à 18, il est dit que Mohammed atteste avoir vu un être puissant s'approcher de lui. Alors, la tradition exégétique dit oui, mais cet être puissant, c'était l'ange Gabriel. En fait, le Coran ne dit pas du tout que c'est l'ange Gabriel, et il définit même cet être puissant comme Rab, comme le Seigneur. Donc il semble qu'on ait affaire là plutôt à une théophanie, un peu comme dans le livre d'Ézéchiel, à savoir que Mohammed aurait vu, au moins dans ses premières révélations, il aurait vu Dieu sous une forme en tout cas. Et la narration faisant intervenir Gabriel dans la révélation serait en fait plus tardive. C'est en tout cas ce qu'a indiqué une récente recherche d'un universitaire américain, Wesley Williams, sur ce thème-là de la théophanie anthropomorphique. Alors, les traditions ont induit la position suivante au point de vue dogmatique, à savoir que Dieu, bien sûr, est invisible, Dieu, bien sûr, est incorporel. On ne peut pas regarder Dieu face à face. Moïse, donc, 7e sourate, verset 143, a voulu voir Dieu face à face. Il a été foudroyé. Là encore, il en a été question ce matin. Mais ceci dit, Dieu peut très bien vouloir se donner à voir. Il peut vouloir se donner une image. De la même façon que Dieu peut vouloir se faire entendre par le biais du Coran, il peut se faire voir par le biais d'une vision, d'un rêve ou d'une vision onirique ou à l'état de veille. Et donc, la littérature onirocritique, qui est extrêmement vaste, là aussi, hein, mais qui est plus orientée religieusement que ce qu'on a entendu à propos de la Chine, explique qu'on peut voir Dieu sous plusieurs formes. On peut voir Dieu sous la forme d'une lumière. On peut voir Dieu, on peut l'entendre derrière un voile, mais si Dieu est derrière un voile, c'est que quelque part il doit être visible pour que le voile ait été installé. On peut le voir aussi sous forme humaine. C'est ainsi qu'on peut voir Dieu sous forme du sultan. Dinawari, qui est un des très grands exégètes des rêves de l'islam sunnite, transmet un hadith. L'envoyé de Dieu, avec Mohammed, a dit « La meilleure vision que vous puissiez avoir durant votre sommeil est celle de votre Seigneur, ou de son prophète, ou de vos deux parents musulmans. » On lui demanda « Prophète de Dieu, un homme peut-il voir son Seigneur ?» Il répondit « Oui, sous l'apparence du souverain, sultan. » Car le souverain, c'est Dieu. C'est-à-dire que le sultan, le souverain, est le symbole permanent de Dieu sous ses attributs de puissance. Donc il est inutile de souligner les dimensions politiques, évidemment, d'une telle interprétation de rêve. Mais ceci dit, les symboles sont aussi réversibles. On peut voir ses parents indiquent Dieu, et on peut voir Dieu, et voit-on dans les textes d'onirocritique, Dieu en fait indique la présence des parents, ou l'état plutôt des parents, l'état psychique des parents. Parfois, on peut voir Dieu sans qu'une forme nous soit indiquée. Et parfois, les traités disent, et si vous sentez que Dieu vous caresse la tête, ou vous embrasse, ou vous offre un cadeau, donc, suit l'interprétation, bien sûr, généralement positive. L'interprétation est généralement positive quand on voit Dieu en rêve, parce que même si on voit Dieu irrité contre vous, eh bien, c'est quand même positif. C'est-à-dire que c'est un avertissement, mais qui montre que Dieu a quand même sur vous un projet et qu'il tient à vous assurer une place au paradis, et que c'est pour cela, disons, qu'il s'enquiert et qu'il entre dans un rêve. Alors, un code symbolique des rêves s'est mis en place, mais elle ne concerne que les rêves, et notamment elle ne concerne pas l'idée de contemplation. Dans la mystique musulmane, on parle de contemplation, mushahada, ce qui laisserait à penser qu'on voit quelque chose. Non, dans les textes mystiques, quand il est question de mushahada, de contemplation, c'est la certitude du cœur. C'est-à-dire, on perçoit Dieu avec une certitude totale par le cœur, ce n'est pas une vision. Donc il faut bien voir que la littérature mystique a bien séparé les deux. L'expérience mystique proprement dit et l'expérience onirique qui peut être mystique, mais pas nécessairement. La possibilité de ce code est rendue possible par la conception d'un monde intermédiaire entre le monde terrestre et les mondes célestes. Ce monde est appelé barzakh, l'isthme dans la tradition musulmane, et ce monde servirait de transition entre les messages venant des mondes supérieurs et ceux des mondes terrestres, mais sous une forme d'analogie. Razali, donc le grand théologien sunnite mort en 1111, dans son traité La Niche des Lumières, explique « La miséricorde divine a fait qu'il y ait une relation d'homologie entre le monde visible et celui du royaume terrestre. » Et c'est ainsi qu'il dit, par exemple, tout ce qui existe, comme le soleil et la lune, le roi et le vizir, il y a des correspondances de cela dans le monde céleste. Et c'est parce qu'il y a une correspondance générale entre le monde, disons, des anges et le monde terrestre que les rêves qui transitent par ce monde-là, comme on va le voir, sont cohérents, donnent un message cohérent. Il y a une espèce de grammaire, il y a une syntaxe, disons, des rêves qui sont offerts à l'âme des rêveurs. C'est ainsi que Razali permet de fonder théologiquement les inductions des onérocrites. Et c'est ainsi que ce monde-là, celui que Corbin a appelé imaginal, sur lequel nous reviendrons, ce monde-là est la source d'un réel savoir, d'une connaissance issue du divin. D'où la conclusion partielle que je tire par rapport à ce que je disais au départ sur l'art, à savoir que la représentation visuelle de Dieu existe bel et bien, mais pas sous une forme matérielle, pas sous une forme d'icône ou de peinture, mais sous une forme visionnaire, ou au contraire, alors là, les représentations visionnaires sont très très riches, parce que c'est une hypothèse que l'artefact matériel abolirait en quelque sorte l'efficace du surgissement de l'image dans l'esprit humain. Quand un croyant voit Dieu lui apparaître ou le prophète lui apparaître dans son sommeil, il y a un message avec une puissance, avec une présence que n'aurait pas du tout une peinture sur toile ou une sculpture sur bois. Donc c'est... Je passerai rapidement sur le rôle de ces rêves, des rêves en politique. En tout cas, leur utilisation dans le discours politique, de tout temps, depuis les origines de l'islam, il y a eu des discours politiques pour dire le sultan qui a pris le pouvoir, sa mère a vu en rêve qu'il dominait le monde, que donc c'était un lion qui allait dominer toute la région. Et Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, le penseur maghrébin se riait, ironisait sur cette propagande politique sous forme de rêve, parce qu'évidemment, si le sultan arrivait à légitimer sa dynastie en disant qu'elle avait été prévue par des rêves, évidemment, il en avait d'autant plus d'impact politique et de prestige. Et ceci se poursuit à l'heure actuelle. Je n'entrerai pas dans le discours récent mais vous vous souvenez que Il avait été question des rêves djihadistes. Il y avait un article du Monde qui avait publié une correspondance et des messages téléphoniques entre les deux kamikazes qui se sont fait exploser à l'aéroport de Zaventem en 2016, près de Bruxelles. Et donc, un de ces deux hommes, Najim Lachraoui, racontait un rêve, donc il a décidé à agir. Il a dit, puis j'ai vu une lumière au ciel dans mon rêve, c'était Allah, qu'il soit exalté et glorifié. Mon âme est devenue une boule de lumière, il m'a dit, mon serviteur, aujourd'hui ta délivrance. Donc on voit que ces rêves sont toujours actifs. Bien sûr, je ne m'arrête pas là, je vais passer au soufisme, mais c'est quelque chose qui est général et qui peut avoir un impact sur les comportements. Alors, le rêve dans le soufisme, dans la mystique musulmane. Je vais commencer par une citation de Razali dont je parlais à l'instant. Razali, qui est un théologien mais aussi un mystique du XIe-XIIe siècle, a écrit une sorte d'autobiographie intellectuelle et spirituelle, Erreur et délivrance, et il commence par expliquer ses doutes et puis comment ces doutes n'ont pas été en quelque sorte dissipé par la théologie spéculative du kalam, ces doutes n'ont pas été dissipés par la philosophie hellénistique, la falsafa, ces doutes n'ont pas été dissipés par le chiisme ismaélien. Et il conclut qu'il s'est finalement tourné, et avec succès, vers le soufisme. Il lit les textes soufis et puis il s'aperçoit qu'il ne suffit pas de lire les textes des premiers mystiques. Il comprend qu'il faut aller plus loin et pratiquer. Et à ce moment-là, il écrit, quand les soufis donc, se mettent à pratiquer, dès qu'ils s'engagent sur le chemin, c'est-à-dire le chemin de la spiritualité en acte, les dévoilements, les contemplations s'ouvrent à eux, en sorte qu'à l'état de veille, ils perçoivent des anges et des esprits des prophètes. Ils entendent des voix les appeler, ils en tirent des enseignements, puis leur état spirituel s'élève, dépassant la perception des formes et des symboles, pour parvenir à des degrés qu'il est très difficile de décrire. Personne ne peut tenter d'exprimer ces états sans s'y embrouiller inévitablement dans l'erreur. C'est intéressant de voir ici, Razali nous dit, on peut lire des traités de mystique, ça ne vous avance pas à grand-chose. Par contre, dès que vous passez à la méditation active, au rituel soufi, vous voyez des anges. Il ne dit pas vous aurez des états, vous voyez des anges, vous entendrez des voix, vous verrez des prophètes, des arwah, des esprits, sous forme imaginale des prophètes. C'est intéressant que le premier stade là, c'est un stade de visualisation en quelque sorte, ou bien d'audition. Mais simultanément, Razali s'empresse de dire que ce premier stade, après, est suivi d'un autre qui est bien sûr ineffable, dont on ne peut pas parler, qui dépasse les capacités du langage humain. Enfin bon, c'est encore une autre question de l'expression de l'expérience mystique. Mais en tout cas, on voit que le rêve marque le passage à un autre niveau de l'être. Enfin, je dis le rêve, en fait, à tort, puisque Razali spécifie bien qu'il s'agit de voir à l'état de veille. Et ça, c'est un point qui n'est pas un détail, c'est le même verbe qui est utilisé pour voir en rêve ou pour voir à l'état de veille. C'est-à-dire que les soufis ne font pas de différence entre les deux. Ce qu'il se passe durant le rêve, c'est que l'esprit est suffisamment détaché du corps pour qu'il puisse avoir un contact, disons, avec les anges, pour simplifier. D'habitude, on est complètement sollicité par nos perceptions matérielles, mais pendant le sommeil, ces perceptions ne sont plus là. L'esprit, le ruh, peut se détacher du corps et donc recevoir des messages d'en haut. Mais le soufi, qui est un saint, qui devient un spirituel accompli, peut à volonté, en quelque sorte, ou sans grand effort, détacher l'esprit de son esprit de son corps et donc avoir accès, même à l'état de veille, à ses visions du monde de l'imaginal. Et ces rêves sont un instrument très très utile dans la voie soufie. De très très nombreux passages font allusion aux rêves des grands mystiques. Il y en aurait des milliers et des milliers. Je me bornerai à quelques rapides échantillons. Le principal mérite de ces rêves, c'est surtout de dire aux mystiques, voilà ton état spirituel à l'heure actuelle. Le grand maître Junaïd, qui est fin 9e, début 10e siècle, je crois qu'il est mort en 905 ou 910, a eu plusieurs rêves marquants dans sa vie. C'est ainsi que lorsqu'il a eu une maturité spirituelle très, très forte. Il était tenté de se mettre à enseigner, mais il n'osait pas parce que son propre maître spirituel était encore vivant, Sarvesakati. Mais un rêve est venu le prophète lui est apparu et lui a dit « Tu peux commencer à prêcher ». Et par courtoisie, le prophète est apparu simultanément à Sarvesakati, au maître, pour lui dire « Ton disciple, maintenant, il peut parler ». Jonaïd a eu des rêves où Satan lui est apparu. C'est assez intéressant de voir qu'il y a dans un rêve vrai, Satan peut apparaître. Non pas pour tromper, il apparaît sous la forme de Satan, mais parce que Dieu peut très bien se servir de Satan comme d'un messager pour éprouver, disons, tel ou tel mystique. Et enfin, il se voit une fois devant Dieu lui-même. Dieu lui demande « D'où vient le discours que tu professes ?» Jonaïd avait déjà commencé à prêcher. « D'où vient le discours que tu professes ?» La question est évidemment cruciale. Qui parle ? Jonaïd enseigne, mais au fond, qui parle ? Est-ce que c'est lui qui parle ? Et si c'est lui qui parle, quelle est la partie de lui qui enseigne, au fond ? Ou bien, est-ce que c'est Dieu qui parle ? Mais alors, quel aspect de Dieu ? Jonaïd répond dans le rêve, « Je ne professe qu'en vérité. La aqul illa haqqan. Je ne professe que dans la vérité, dans l'ordre de la vérité. » Et la voix divine lui répond, « Sadakta, tu as dit vrai. » Donc c'est une espèce de complément. Dieu, en rêve, lui dit, « C'est bien, tu es dans la bonne voie. Ce n'est pas toi qui parles, c'est tu parles, en tout cas, dans l'ordre de la vérité, et avec l'aval de Dieu. » Mais ce qui va loin, évidemment, parce que si Dieu lui dit cela, ça veut dire que Jonaïd parle depuis la source même de la prophétie mohammadienne. On pourrait multiplier les exemples. Un exemple célèbre est celui de Tirmidhi Hakim, le sage, qui a dû mourir vers 910, qui n'a pas connu d'initiation régulière, c'est qu'on ne lui connaît pas un maître très précis. Il a eu très jeune des illuminations. En effet, lui-même a écrit une petite autobiographie assez frappante, mais cette autobiographie est surtout composée de rêves, précisément. Il y a quelques événements de sa vie, mais très très rares. Les événements principaux de sa vie, c'était ses rêves. Et il a eu quelques rêves, deux de lui-même, quatre d'amis qui ont rêvé pour lui, et tous les autres rêves sont des rêves de sa femme. En effet, sa femme et lui formaient un couple extrêmement uni, et non seulement uni humainement, mais uni spirituellement, parce que c'était sa femme qui faisait des rêves dans lesquels des anges, des prophètes venaient lui transmettre des messages pour son mari. Donc le couple était tellement uni que dans un de ses rêves à elle en tout cas, le prophète Mohammed vient se coucher dans leur lit alors qu'ils étaient là tous les deux, comme pour faire la synthèse en quelque sorte, symboliser leur commune proximité avec le message à transmettre. Dans un autre moment, elle parle avec des anges, avec des prophètes, Mohammed, mais Jésus également, et perçoit des symboles authentifiant et apportant des précisions sur la mission de son mari. Ce qui est de touchant, c'est lorsque les anges ou le prophète parlent à sa femme, il parle en persan vernaculaire. Mais quand Tirmidhi reçoit un discours, c'est en arabe classique que ça se passe. Quelques rêves sont à souligner. Un premier rêve très significatif, Tirmidhi se voit en rêve en train de suivre le prophète dans la mosquée. Et il met ses pas exactement dans les mêmes pas que le prophète. Donc, et puis après, le prophète va sur le minbar, sur la chaire, et lui se met juste en dessous du minbar, sous le prophète, en adoptant les mêmes gestes. Donc c'est une façon tout à fait claire de dire que le saint, le wali, est exactement le tenant-lieu du prophète. Il se situe dans la continuation exacte du prophète dont il est vraiment l'héritier. Dans un autre rêve, Tirmidhi se voit traverser tous les voiles le séparant de Dieu, à l'exception d'un seul. Enfin, un autre rêve, toujours de sa femme, raconte que la communauté des croyants était menacée par les païens. À l'époque, c'était des Turcs, mais à l'époque, il faut dire que les Turcs étaient des païens et puis dangereux parce qu'ils étaient agressifs en Asie centrale, et que la communauté était en danger. Il y avait 39 saints qui la protégeaient, mais il fallait un 40e, et ce 40e allait être Tirmidhi. Il s'agit là d'une allusion à cette hiérarchie secrète des saints qui protège l'humanité, qui protège la communauté des croyants, et qui sont en quelque sorte le relais de la présence divine sur la terre. Et Tirmidhi clairement se positionne là, non seulement comme un de ces 40 abdals, mais comme le premier d'entre eux, comme le pivot, comme le pôle de l'humanité à ce moment-là. Un autre grand mystique qui a fait état de ses rêves est Ruzbehan Bakli de Shiraz, qui est mort en 1209, qui lui aussi a décrit, enfin plus encore, a décrit ses rêves théophaniques, disons, dans un journal spirituel singulier qui a été traduit en français d'ailleurs par Paul Balanfa sous le titre « Le dévoilement des secrets » et dans lequel il décrit plus d'une centaine de rêves faits à différents moments de son parcours spirituel. Ce n'est qu'un échantillon, dit-il, parce qu'en fait, il rêvait pratiquement chaque nuit, il aurait vu le prophète Mohammed des milliers de fois. Et il n'indique pas vraiment s'il s'agit de rêves ou de visions à l'état de veille. C'est typique de cette façon que les soufis ont de confondre tout à fait volontairement les deux. Chez Ruzbehan, on trouve même un type de vision qui est encore plus intéressante, c'est qu'il dit qu'à des moments, je percevais le monde comme irradiant la lumière. C'est-à-dire que c'était même pas un rêve, c'était même pas des images qui venaient d'ailleurs. Il percevait sous les formes matérielles de la nature qui l'entourait ou des hommes qu'il croisait, leur dimension surnaturelle, la lumière divine qui émanait d'eux. Donc c'est comme si la réalité des créatures se dévoilait à lui sans que ce soit séparé par un état onirique. Dans ses rêves, je passe rapidement, Ruzbehan a vu de nombreux anges, il a vu des grands maîtres soufis qui l'ont précédé, Junayd, Abu Yazid Bastami, Ibn Khafif, bien d'autres. Le cadre est tout à fait sunnite, il voit dans ses rêves Abu Bakr et les premiers califes, et les quatre fondateurs d'écoles juridiques sunnites, mais il rencontre surtout les prophètes. C'est-à-dire que vraiment, il est comme investi par les prophètes, par les grands prophètes, qui souvent vont à la rencontre de Ruzbehan. Adam, Abraham, Moïse, Jésus et surtout Mohammed. Donc il a vu extrêmement souvent. Et là, dans ses rêves, il reçoit une véritable initiation. Ses prophètes lui font manger ses livres. Par exemple, Moïse lui fait manger la Torah, Jésus lui fait manger l'Évangile, Mohammed lui fait manger le Coran, etc. Et ils lui font procèdent à l'initiation consistant à lui sucer la langue, qui est une manière donc de lui dire « Tu peux parler maintenant à notre place ». Des visions très nombreuses et très fortes de rencontres avec Dieu sont également décrites, vraiment très fréquentes. Alors bien sûr, Ruzbehan est conscient que ces visions de Dieu peuvent être mal interprétées. À plusieurs reprises, il le dit, il dit, mais Dieu, rien ne lui est comparable, aucune créature ne peut lui être comparée, mais... Donc on voit bien qu'il s'adresse à un lectorat très précis de disciples qui savent ce que c'est que le théophanisme, donc qui ne s'offusque pas. Et donc il peut, dans ce traité-là, expliquer comment il a vu si souvent Dieu sous une forme humaine, sous la forme notamment d'un homme turc. Les Turcs étaient considérés comme étant les modèles de beauté, et un homme parce que c'était la forme masculine qui était le modèle de la beauté selon les canons de cette époque. Parfois, il voit Dieu sous la forme d'un maître spirituel ou encore sous l'aspect du prophète Mohammed lui-même. Et parfois, c'est même Dieu qui vient à la rencontre de Ruzbehan. Et a lieu, par exemple, un dialogue tout à fait explicite. Ruzbehan a un doute en disant « Mais comment est-ce que le Dieu très haut peut venir à moi sous cette forme humaine ?» Et Dieu lui répond « Mais c'est afin que tu t'habitues à moi et que tu m'aimes. » C'est-à-dire que la présence de Dieu en elle-même est complètement insupportable aux hommes. Si Dieu se manifestait tel qu'il est, il anéantirait complètement toute la création, mais la miséricorde, et il faut bien dire ici l'amour divin, veut qu'il se rapproche pas à pas des hommes en prenant des formes qui leur sont accessibles et qui leur sont aimables en quelque sorte, comme pour apprivoiser chacun des saints qu'il a voulu aimer. On pourra noter que dans les rêves de Ruzbehan, l'ambiance est généralement celle de l'extase, une sorte de jubilation extatique. Il est souvent question de musique, de danse. Dieu lui-même joue du luth, du vin, d'ivresse. Il voit Mohammed dansant dans l'ivresse. Et tout le monde rit. Le monde entier, dit-il dans un rêve, rit jusque dans ses moindres atomes. Car en effet, la simple manifestation de Dieu n'est que joie. Toute la création jubile de la présence divine. C'est ce que signifie Dieu. Et tous ces rêves sont saturés de désirs. Le désir de Ruzbehan pour Dieu, de Dieu pour Ruzbehan et des prophètes pour Ruzbehan. Cependant, Ruzbehan, qui a une pensée théologique très structurée, bien sûr, explique bien que tout cela, ce sont des phases de son itinéraire et qu'à la fin, il s'agit bien sûr de dépasser cela et d'avoir accès à l'ineffable présence divine au-delà des formes et des représentations. Le contenu de ces rêves revient surtout à définir le rang spirituel de Ruzbehan, à exprimer l'amour de Dieu, du prophète, des anges envers lui. Et son rang est un rang prophétique, non pas dans le sens où Ruzbehan serait lui-même un prophète, mais sa mission est en quelque sorte une actualisation, un accomplissement parfait de la spiritualité mohammadienne dans le lieu où il est et au temps où il vivait. Sainteté et prophétie sont absolument inséparables. Il y a un prophète. Le prophète s'est manifesté pour que les saints puissent exister après lui et puissent prolonger son message. Donc je passerai sur le symbolisme très, très riche de tous ces rêves. Il y en a qui sont spectaculaires, où Ruzbehan rêve que Dieu l'égorge et que son sang coule à travers les vallées du monde et se devient plus radieux que le soleil. Donc il y a une espèce de sacrifice, de transmutation à la fois. Il rêve que Dieu apparaît sous l'apparence d'un lion jaune qui dévore tous les prophètes, qui dévore tous les saints, et qui donc, Ruzbehan comprend que Dieu se nourrit en quelque sorte de ces hommes qu'il aime et qu'il a créés, et que c'est le sens imagé du tawhid, de l'unification en Dieu, que tout est unifié en Dieu, que rien ne subsiste hors du projet divin. Voilà, alors les rêves de Ruzbehan viennent donner forme à des rapports avec Dieu qui seraient autrement complètement inexprimables, comme le disait Razali tout à l'heure. Car danser avec Dieu, s'enivrer avec le prophète peut sembler absurde ou choquant, mais ces rêves expriment bel et bien un état spirituel unissant le serviteur limité au Dieu illimité. Et ce rapport, essayer d'exprimer ce rapport du fini avec l'infini, c'est exactement ça, le paradoxe, comme l'écrivait Henri Corbin. Et comme Paul Balanfa le souligne dans son introduction au livre de Ruzbehan, le rêve exprime finalement, au mieux sous forme visuelle, ce qu'on appelle le chatr dans la littérature soufie, à savoir le paradoxe inspiré. Le chatr, c'est une façon un peu paradoxal qu'avaient certains maîtres de s'exprimer. Halaj avait dit « Je suis le Dieu vrai ». Abou Saïd a dit « Sous mon manteau, il n'y a rien d'autre que Dieu ». Abou Yazid, entendant le muezzin crier « Allahu Akbar, Dieu est très grand », disait « Moi, je suis plus grand encore ». Donc, ce sont ces paroles choquantes, enfin qui peuvent choquer, en tout cas paradoxales, sont exprimées visuellement dans les rêves de Ruzbehan. Si on prend par exemple le cas de Halaj. Halaj est connu pour avoir dit « Je suis le Dieu vrai ». Il essayait de rendre compte d'une expérience qui est tout à fait, coranique au fond, c'est que face à Dieu, l'homme n'est rien. Chaque organe, chaque atome de l'être humain vient de Dieu, était créé, recréé, maintenu à l'existence par Dieu à chaque instant. Donc, au fond, Halaj dit, mais rien n'appartient à Halaj. Aucun de mes atomes ne m'appartient. Et même ce qu'il y a de plus personnel en moi, à savoir ma conscience, ma faculté de dire « je », même cela, ça ne m'appartient pas. Même cela, c'est Dieu qui me l'a donné. Et donc, quand il dit « je suis le Dieu vrai », c'est le stade suprême de l'humilité, puisqu'il reconnaît que Halaj n'est rien. Alors, il y a eu une altercation entre Halaj et son maître Junaid. Junaid, l'entendant dire « Ana al-Haq, je suis Dieu », dit non, il faut dire « Ana min al-Haq, je viens de Dieu, je suis issu de Dieu ». Mais Halaj persista. ça a été son choix. On ne va pas revenir sur son cas et sur son procès. Enfin, pour terminer, je voudrais parler d'Ibn Arabi, incontournable ici sur le sujet des rêves. Donc Ibn Arabi, ce grand mystique andalou mort à Damas en 1240, et sur lequel Henri Corbin a écrit un livre tout à fait essentiel, donc l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Ibn Arabi a une œuvre colossale qui, j'allais dire que l'on connaît, oui, enfin, on sait qu'il a une œuvre colossale, mais on ne connaît pas encore la totalité de ce qu'il a écrit, tellement cette œuvre est vaste. Ibn Arabi lui-même a eu un grand nombre de rêves, il attachait une importance extrême aux rêves qu'il a faits. Ces rêves étaient parfois des rêves initiatiques, hein, comme en 1190, à Cordoue, il a eu un rêve où il s'est vu accueilli par les prophètes, et ça l'investissait en quelque sorte comme le plus grand gnostique de son époque, peut-on dire. Enfin, je vous renvoie pour les détails au livre de Claude Hadas, Ibn Arabi et la quête du soufre rouge. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Ibn Arabi a aussi tracé les grandes lignes d'une doctrine cohérente sur le rôle du rêve, des images, de la vision, qui peut se résumer en quelques points essentiels. D'abord, le monde est une manifestation des attributs divins. En Dieu résident des essences immuables de toutes les choses qui sont amenées à l'existence concrète dans le monde sensible. Cette existence est conférée par Dieu. Sachant qu'en fin de compte, Dieu seul est doté d'être. Le monde lui-même, l'univers entier, n'est qu'une projection dans le sensible, dans la matière, des noms et des attributs divins. Donc, le monde en lui-même n'a qu'une existence relative, dépendante, éphémère. On en a parlé ce matin. D'une certaine manière, il n'est pas faux, dit Ibn Arabi, de définir le monde comme un rêve de Dieu. C'est en ce sens que Ibn Arabi parle de l'imagination absolue, à savoir l'univers en tant qu'il est un rêve de Dieu. Mais il existe, bien sûr, entre ce que Dieu rêve en lui-même, ou au niveau de ses noms, de ses attributs, d'une part, et les choses qui existent dans le monde réel, dans le monde concret. Et cet abîme est franchissable grâce à un pont, et ce pont, c'est le monde intermédiaire, ce dont je parlais à l'instant, dont il a été question aussi ce matin, à savoir, entre les purs intelligibles et les réalités concrètes, il existe ce monde imaginal où vivent des êtres qui sont dotés de formes et de corps, mais de corps subtils, dotés de vie, dotés de conscience, mais tout cela sur un mode imaginal. Il s'agit d'une dimension ontologique de plein droit, peuplée d'êtres angéliques ou des défunts d'ailleurs également, et qui sont comme des correspondants plus subtils des êtres denses de la terre. Dans ce monde se manifeste ce qui sinon relève de l'invisible. Comme l'écrit Ibn Arabi, la réalité de l'imagination, c'est de corporaliser ce qui n'est pas de la nature du corps. Donc ce monde imaginal est appelé disjoint par Ibn Arabi parce qu'il existe de façon autonome. Il ne dépend pas en quelque sorte du monde terrestre. Mais Ibn Arabi distingue cette imagination, donc ce monde imaginal, de la capacité qu'ont les hommes d'imaginer, ou plus exactement, de produire des images de l'ordre de l'imaginal. Non pas, ici il ne parle pas de l'imagination en tant que fantaisie, je m'imagine en train de, je sais pas, de boire du champagne chez Fouchon, que sais-je, ou autre chose. Non, c'est vraiment l'imagination au sens profond, donc de capacité de recevoir ou de produire des images en rapport avec ce monde céleste. Et alors, et c'est là le point central, donc cette imagination, lorsqu'elle est libérée, au moment du sommeil, c'est ce dont je disais, c'est quand je faisais allusion tout à l'heure, au moment du sommeil, lorsque le ruh, l'esprit de l'homme, son corps subtil, se détache de l'esprit physique, eh bien, l'homme peut capter alors ces images, ces réalités du monde imaginal, et qui peuvent, à leur tour, lui apporter des messages, et des messages issus des mondes d'en haut, des mondes intelligibles. Et c'est cela, ce qui se passe dans les rêves, explique Ibn Arabi, du moins dans les rêves vrais, on est toujours dans les messages vrais. Bien sûr, dit Ibn Arabi, qui reste très concret, cela varie en fonction de l'expérience propre de chacun. C'est sûr qu'un aveugle ne va pas rêver comme un voyant, un sultan ne va pas rêver comme un esclave, et surtout un savant ne va pas faire les mêmes rêves qu'un ignorant. Et puis surtout, un homme saint, pur, va avoir des rêves beaucoup plus clairs qu'un pécheur. C'est ainsi que Mohammed a pu voir Dieu sous cette plus belle forme, sous la forme d'un beau jeune homme, allusion au hadith que je mentionnais au début de cet exposé. Du coup, les formes imaginales permettent l'opération de retour à la source du sens. En voyant les formes dans les rêves, dans les visions, en voyant ces formes dans le rêve, en voyant ces formes imaginales, le mystique, ou même le rêveur non mystique, peut en tirer un message qui vient d'en haut. La source du message, c'est l'opération de ta'wil, de faire revenir à son premier niveau le message. Donc, voir quel est le message originel qui est adressé au rêveur. Cela permet de faire traverser, l'interprétation des rêves en arabe se dit ta'bir, ce qui signifie faire traverser d'une rive à l'autre et faire traverser le rêveur de son monde concret et limité jusqu'au monde divin. C'est une opération très délicate. Ibn Arabi pointe d'ailleurs que Abraham lui-même s'y serait laissé prendre. En quelque sorte, Abraham a rêvé qu'il sacrifiait son fils. Et en fait, dit Ibn Arabi, il n'avait pas fait l'interprétation de ce rêve, il a pris ce rêve au premier degré, il n'avait pas compris que le fils qu'il voyait dans son rêve, en fait, c'était le bélier et qu'il aurait dû l'interpréter. Ce qui montre que même les prophètes eux-mêmes sont dans une situation, j'allais dire, herméneutique et qu'ils doivent interpréter leur rêve eux aussi. Et que le rêve est toujours, n'est jamais entièrement vrai. Même si on voit Dieu ou le prophète en rêve, on voit une forme. Cette forme, c'est Dieu et c'est le prophète d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas le prophète. Il faut garder cette distance que finalement Dieu se révèle toujours de façon masquée, même si c'est le masque d'une belle forme, même si c'est le masque du prophète ou de ses anges. Enfin, concernant la pensée d'Ibn Arabi, dans le cadre précis de sa vie mystique, il indique combien le rêve est précieux pour se guider dans la voie vers Dieu. En effet, il insiste sur le fait que, c'est une considération supplémentaire qui est assez propre à sa pensée, le monde est dans un état de mutation perpétuelle. À chaque fraction de seconde, Dieu crée le monde nouveau. Alors, nous qui sommes immergés dans le monde, on est plongés dans le monde, on voit le monde en durée continue et on imagine qu'il y a des causes passés qui produisent les événements présents et que les événements présents vont engendrer des conséquences à venir. Or, tout cela, dit Ibn Arabi, c'est illusoire. Nous, on perçoit juste des sortes d'atomes de durée, mais seul Dieu a la connaissance de la totalité de ce qui va se passer et le rapport entre le passé et le présent et l'avenir, est complètement équivoque et aléatoire. Or, précisément, autant il est facile de se laisser piéger par la vie dans laquelle nous sommes et croire que, au fond, tout ce que nous vivons est réel, ce que nous vivons est cohérent, et dans ce cas, on se laisse complètement entraîner par toutes ces tromperies et tous ces pièges dont Christian Jambé parlait ce matin à propos de Mola Sadra, mais on peut aussi essayer de les percer, de les élucider, et paradoxalement, le rêve nocturne permet de le faire. Parce que le rêve nocturne a ceci de particulier, c'est qu'il se termine. Donc une fois qu'on se réveille le matin, on a reçu un message et on sait que c'est un rêve. Et ce rêve, on va pouvoir le décrypter et on va pouvoir en tirer un enseignement. Et cet enseignement pourra nous éclairer dans la vie. Alors que dans la vie concrète que nous vivons, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte que c'est un rêve. Ou alors il faut faire ces exercices dont il y a des questions ce matin, qui sont des exercices quand même bien ascétiques, et qu'il faut être philosophe et très très motivé pour essayer de s'abstraire de cette hypnose que nous avons dans la vie quotidienne. Ibn Arabi cite là aussi le hadith connu et déjà cité donc ce matin. Les hommes sont endormis et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Donc, et même chose, donc il est possible de grâce à l'interprétation du rêve ordinaire, nocturne, de se réveiller de ce rêve qui, dans lequel on peut être plongé toute la vie si on n'y prend pas garde. Voilà, donc en conclusion, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas non plus exagérer le rôle du rêve. Il est important, Ibn Arabi l'a souligné, mais il n'est qu'une des communications, une des modalités de la communication avec Dieu. Fondamentalement, seule la sainteté compte. Dieu a créé les hommes pour créer des saints, et donc le rêve est un des moyens par lequel Dieu permet aux hommes de devenir ses amis, de devenir ses aoulias, de devenir ses saints. Mais, comme il a été dit, le rêve traduit forcément un état intermédiaire. L'expérience suprême, l'expérience unitive dont parlent les soufis se situe quand même au-delà. Mais malgré tout, donc, comme vous l'avez vu, le rêve n'est pas du tout un message insignifiant. Au contraire, le rêve peut être un moyen, si l'on l'utilise bien, peut être un moyen complètement salvateur, mystagogique. Il n'est pas lui-même une expérience mystique, mais peut correspondre à un vécu mystique qui s'en rapproche beaucoup et qui nous aide paradoxalement à nous réveiller. Voilà, je vous remercie pour toute votre attention.
Merci pour cette belle synthèse, présentation. J'avais une question pour, vous parlez de mon rêve, ce que vous employez comme mot. Est-ce que dans les écrits de ces figures, de ces théologiens et de ces personnages, est-ce qu'ils emploient le mot hulum, rêve, ou alors ro'ya, qui est vision?
Ro'ya, oui.
Et donc, ils parlent toujours de ro'ya?
Toujours.
Toujours, d'accord. Donc, et justement, là, éventuellement, j'ai une remarque sur le fait qu'il y a un rapprochement entre la mushahada, l'expérience mystique, et la ro'ya. Donc, peut-être que là. Et j'ai une autre question par rapport à, dans l'accès à cette ro'ya, donc, est-ce que c'est donné à tout le monde? Ou alors, est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut accéder à la ro'ya, comme éventuellement cet exemple un peu triste de ce personnage qui s'est donné la mort pour une cause complètement... voilà, et qui a quand même vu quelque chose qui, pour lui, c'est un rêve. Donc, est-ce que ces auteurs-là parlent de ro'ya, et donc cette ro'ya, est-ce que tout le monde peut y accéder? Ou alors, est-ce que c'est vraiment limité à un certain...
Tout à fait.
À certains savants ou initiés.
Oui, c'est une très importante question, effectivement. Très importante parce que ce terme, donc le ro'ya, signifie la vision, voir, et il apparaît dans le Coran. Et il apparaît dans le Coran à propos de prophètes, mais il apparaît aussi dans le Coran à propos de Pharaon. C'est-à-dire que dans l'histoire de Joseph, Dieu envoie à Pharaon, au roi d'Égypte en tout cas, les rêves des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses. Donc, ça veut dire qu'un roi païen peut recevoir un rêve. Donc, virtuellement, chaque homme peut recevoir un rêve, quelle que soit d'ailleurs sa religion. Mais, par contre, le degré de pureté du rêve sera fonction de la préparation, de la pureté de l'âme du rêveur. Et donc, c'est là où chacun peut recevoir un rêve. Mais, par contre, l'intérêt du rêve, la pureté du rêve, l'efficacité du rêve dépendra de l'engagement spirituel de celui qui le reçoit. Et alors là, il y a toute une analyse très détaillée chez Ibn Khaldoun, justement, qui essaie de montrer le rapport qu'il y a entre les activités du rêveur et puis ce qu'il peut faire avec le rêve. Quel est le degré d'interprétation symbolique qu'on peut accorder à chaque rêve? Est-ce qu'il y a des rêves qu'il faut croire vraiment à la lettre, ou bien est-ce qu'il faut toujours interpréter? C'est en effet des points essentiels, mais sur lesquels il n'y a pas de réponse définitive, parce que le rêve, quoi qu'on fasse, reste incontrôlable.
Déjà, merci beaucoup. Et au début, vous disiez que l'expérience visionnaire, onirique, est complémentaire de ce qui est écrit et récité. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir est-ce que ça peut amener des variations par rapport à la doctrine, ou des confirmations, ou un approfondissement? Comment ça se situe? Est-ce qu'il peut y avoir une différence significative, d'une manière ou d'une autre?
Oui. Alors, effectivement, ces rêves ont eu une certaine importance au niveau des sciences religieuses, hein, ça a existé. D'abord, il faut dire que le rêve n'a pas de valeur ni juridique ni scientifique, c'est-à-dire qu'évidemment, personne ne peut aller devant un tribunal en disant « j'ai vu dans un rêve vrai que c'est un tel qui a cambriolé ma maison ». Ça, c'est bien sûr, c'est pas possible. Mais, marginalement, ça a quand même eu de l'importance. Par exemple, les hadiths. Il y a toute la science du hadith s'est mise sur place. Donc, les savants de hadith essayaient de savoir quelle est la bonne version. Et donc, c'était très important si quelqu'un avait une vision du prophète en rêve et que le prophète lui disait « voilà ce que j'ai réellement dit ». Alors, ça n'a pas de valeur parce que ça n'entre pas dans l'argumentation, mais par contre, ça entre très fort dans la conviction que peut avoir le savant que le prophète a vraiment dit ça. Ou le prophète peut lui dire, il y a beaucoup de variantes coraniques. Vous savez, il y a des milliers de petites variantes dans les versets coraniques. Le prophète dit, non, telle variante n'est pas bonne, il faut réciter comme celle-là. Ou bien, tel individu, tel théologien, ne le fréquentez pas, c'est un pervers, c'est un hérétique, etc. Et donc, il y a des nombreuses sciences qui ont été influencées comme ça, marginalement, par des rêves sur des points, même sur des points de droit.
Etc. Est-ce qu'il y a des exemples de rêves qui soient déroutants d'un point de vue doctrinal ?
Oui, oui. Oui, et effectivement, les traités de neurocritique donnent l'exemple de rêve où le prophète Mohammed apparaît à un rêveur et lui dit « ton voisin est un chiite, va le tuer ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le prophète qui l'a dit, c'est le prophète qui l'ordonne. Est-ce qu'il faut lui obéir ou non? Donc, la question s'est posée. Et alors, il y a plusieurs réponses possibles. Une réponse possible, c'est de dire, mais en fait, c'était pas un vrai rêve, c'était un faux rêve, c'était un de ces rêves qu'on fait soi-même, qu'on produit soi-même. Donc, en fait, le prophète n'est pas en cause. Ou bien, c'est de dire, c'est une mise à l'épreuve. C'est vraiment le prophète qui veut savoir si l'individu est tellement sauvage qu'il est prêt à tuer son voisin. Ça peut être ça aussi, une autre interprétation. Mais effectivement, il y en a pas mal comme ça.
Tout le monde imagine Alice. Est-ce qu'il a à voir avec le malakout dont il est question dans le Coran, dans plusieurs des sourates? Ou bien c'est une réalité qui se situe en deçà de ce malakout encore?
Vous savez, le Coran parle du malakout, mais on ne sait pas exactement ce que ça désigne. Par contre, dans le vocabulaire technique des soufis et de certains philosophes, malakout désigne donc une dimension intermédiaire, effectivement, qui parfois, chez certains d'entre eux, peut correspondre à cette dimension angélique. Mais ça dépend. Chez certains auteurs, malakout désigne plutôt le monde des intelligibles. Il n'y a pas une terminologie fixe pour cela. Christian, oui, pardon. Christian veut donner un détail, une explication.
Le monde du rêve n'est pas nécessairement le monde imaginal.
Non.
Parce que le monde imaginal, d'abord, il est chez quelques auteurs, hein, ce n'est pas une notion générale en islam. Je voulais répondre à ça aussi, parce que c'est une notion qui apparaît chez certains auteurs. Mais pour cela, par exemple, chez Sohrawardi, dans l'école Ishraqi, le monde imaginal est essentiellement lié aux âmes des sphères célestes. C'est un élément cosmogonique. Alors, est-ce que c'est lié, dans ce cas-là, est-ce que c'est lié à une dimension onirocritique importante qui est les avertissements touchant le décret divin? Parce qu'il me semble que quand nous pensons à la connaissance pure, à la connaissance immatérielle, nous pensons l'intelligible un tout petit peu de manière neutre et désintéressée. Alors qu'il me semble que les philosophes eux-mêmes ne pensent jamais de manière tout à fait désintéressée. Je veux dire par là que ce qui est écrit, par exemple, dans le monde imaginal, qui est le monde de la prédestination, ou ce qui est écrit dans le monde intelligible, c'est le décret de Dieu qui nous concerne.
Oui, c'est ça. Non, c'est
exactement. Alors,
est-ce
qu'il y a dans le rêve prémonitoire, est-ce que dans la littérature onirocritique, il y a une grande part prêtée à l'art de deviner un tout petit peu ce qui va nous arriver. Voilà.
C'est l'orientation principale, on peut dire. C'est-à-dire que le rôle essentiel des différents rêves, c'est ça. C'est soit une félicitation en disant « bravo, tu es sur la bonne voie », soit un avertissement en disant « fais très attention, tu es en train de... »
Mais alors, est-ce qu'il est possible de changer de voie? Parce que ce qui est écrit éternellement.
Les textes que j'ai consultés sont quand même surtout sunnites et donc quand même, en général,
plutôt plus libéraux.
Prédestinationnistes.
Prédestinationnistes, mais chez les chiites aussi. Hein,
oui, oui.
Donc, on ne touche pas à la prédestination. Alors, à quoi sert d'être averti?
C'est un encouragement.
C'est une question naïve, mais qu'on se pose dans les textes, vraiment.
C'est tout le paradoxe, je crois, de la vie religieuse dans l'islam sunnite. C'est-à-dire qu'on, à la fois, on croit en la prédestination, mais on croit en la responsabilité de l'être humain. Oui. Les deux vont ensemble. Oui. C'est un peu paradoxal, mais je crois...
En tout cas, on cherche bien à connaître le rêve pour savoir, avec un peu d'anxiété, touchant la fin.
Si on est sur la bonne voie, tout à fait.
Merci.
Tout à fait.